franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, tuer. Car c'est la décision glaçante que prennent deux femmes et deux hommes, Nathalie Ménigon, Joël Aubron, Jean-Marc Rouillant et Georges Cipriani, un soir d'hiver à Paris. Nous sommes en 1986. Le groupe armé Action Directe dévie définitivement de son habituelle ligne de conduite révolutionnaire, violente mais non sanguinaire, et sombre dans la fièvre assassine. Le 17 novembre, le groupe abat froidement Georges Besse, PDG de Renault, patron respecté, père de famille, époux comblé. Pourtant, en termes de lutte armée, la France n'est ni l'Italie ni l'Allemagne, durement éprouvée par les attentats des années de plomb, Brigade Rouge et Fraction Armée Rouge. Depuis l'année 79, Action Directe, elle, privilégie le vandalisme politique plutôt que le terrorisme. En France, la lutte armée vise les symboles davantage que les hommes. Alors pourquoi l'organisation révolutionnaire fait-elle le choix du sang ce 17 novembre 1986 ? Les mécanismes à l'œuvre sont-ils seulement politiques ? Et enfin, pourquoi Georges Besse, un patron, un capitaliste certes, mais surtout un homme discret, loin d'être la cible la plus évidente, est-il assassiné ? Notre invité aujourd'hui après le récit, ce sera Alain Gesmard, l'un des leaders de mai 68. Il était dirigeant de la gauche prolétarienne avec Benny Lévy avant de s'en éloigner lorsque certains militants se sont radicalisés. Par la suite, il était inspecteur général de l'éducation nationale, puis membre du cabinet de Lionel Jospin, alors ministre de l'éducation et conseiller du maire de Paris, Bertrand Delanoë. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jeanne Maillère avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Patrick Henry.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Fin de l'été 68, alors que les braises de mai commencent à se faire cendre, des oiseaux politiques au nom étrange voient le jour, les Mao Spontex. Maoïstes spontanéistes, membres de la gauche prolétarienne, ces révolutionnaires veulent poursuivre les luttes initiées en 68 quand le mouvement étudiant se déplaçait vers les usines et leurs ouvriers. La gauche prolétarienne, interdite dès 1970, propose une articulation inédite entre rhétorique marxiste, sensibilité libertaire et action inspirée de l'anarcho-syndicalisme. Elle considère que le cadre légal et syndical, à savoir les grèves et les manifestations, n'atteint pas efficacement le système capitaliste. Le but est donc clair et parfaitement assumé. Il s'agit de provoquer un soulèvement massif des ouvriers en encourageant les conflits sociaux au cœur des usines. Le mode opératoire, l'action directe, l'illégalité et parfois la violence. Manifestations et meetings sauvages, affrontements avec les forces de l'ordre, jets de cocktails Molotov, les Mao privilégient l'action spontanée pour défendre les ouvriers, les immigrés, les jeunes. Voilà comment Alain Gesmard, ancien leader de mai 68 et ancien membre de la GP gauche prolétarienne, parle aujourd'hui de son rapport à l'action violente dans un documentaire de Jean-Charles Deniau.
Le rapport donc à la violence et à la logique entre l'action et la répression était beaucoup plus prégnante qu'on ne peut même le concevoir aujourd'hui. Donc on était dans cette pensée-là. Et cette pensée-là nous amenait effectivement à exalter la violence telle qu'elle se passait et à penser qu'elle devait, elle devait déboucher sur un affrontement qui partirait d'un lieu où se passerait quelque chose qui entraînerait le reste. C'est une pensée close, c'est une pensée limitée, qui, heureusement, en ce qui nous concerne, n'amène pas par ailleurs des actions, parce que pour les militants qui étaient rassemblés autour du journal que vous évoquez, autour de la cause du peuple, c'était une règle absolue, explicite, suivant laquelle jamais les militants ne devaient devancer ce qui se passait dans la réalité.
Parce que quand on lit cette littérature sans se référer à ce qui s'est passé, on a l'impression qu'entre le discours et la réalité, il y a un monde.
Oui, le monde entre le symbole et le réel.
Le 25 février 1972, la limite entre violence symbolique et violence réelle est franchie. dans le camp des patrons d'abord, alors que des ouvriers tentent de pénétrer dans l'usine Renault de Boulogne-Billancourt pour protester contre de récents licenciements, un vigile tue un militant de la GP, Pierre Auvernet. Le système que les Mao dénoncent exprime alors toute sa brutalité, et leur réaction est immédiate. Lors de la manifestation organisée en l'hommage de la victime qui rassemble 200 000 personnes, les slogans deviennent des menaces de représailles. « Nous vengerons Pierre Auvernet », scande une partie de la foule. Deux semaines plus tard, la nouvelle résistance populaire, un organisme à peine fondé, prend en otage Robert Nogrette, le chef adjoint de l'usine de Boulogne. L'homme est finalement libéré deux jours plus tard, tandis que les dissensions commencent à poindre au sein de la GP. Les fissures entre la direction et les militants de base se creusent. Une partie des révolutionnaires veut dépasser les symboles et se lancer dans la lutte armée, la vraie. En 1973, la gauche prolétarienne s'autodissout. Certains membres, comme Gilles Milly, Alain Gesmard ou Serge Julli, qui cofondent alors Libération, reprennent le droit chemin, celui de la légalité. D'autres restent sur le carreau, perdus, prêts à tout pour venger le prolétariat. C'est sur ce terreau, celui des contestations déçues, des rêves brisés, des révolutions tuées dans l'œuf, que les idées d'Action Directe s'enracinent. Une filiation morbide, une reprise de flambeau délétère que nous allons maintenant explorer. Printemps 1979, Jean-Marc Rouillant et sa compagne, Nathalie Ménigon, créent Action Directe. Leur symbole, une étoile rouge. Leur mission, renverser les autorités existantes, capitalistes et étatiques, pour instaurer un nouvel ordre social en faveur des prolétaires. Leur modus operandi, sortir du carcan légal du militantisme et du syndicalisme, remplacer la grève et les manifs jugés inutiles par les actions violentes et symboliques contre la société qu'ils veulent abattre. C'est le souvenir des Mao à fleur encore, la violence s'intensifie. Le 1er mai, en guise d'acte de naissance, Action Directe mitraille la façade du Conseil national du patronat français. Jean-Marc Rouillant est un ancien militant antifranquiste qui a fait l'apprentissage de la lutte armée à Barcelone et dans la région toulousaine. Lors de son séjour en prison à Paris, il durcit sa pensée en se rapprochant des NAPAP, les noyaux armés pour l'autonomie populaire issus de feu la gauche prolétarienne. En 1977, l'organisation armée tue Jean-Antoine Tramoni, vigile de l'usine Renault de Boulogne-Billancourt. C'est lui qui avait abattu Pierre Auvernet, l'ouvrier militant de la gauche prolétarienne, en 1972. Pour le moment, Rouillant, lui, n'a pas en fait couler le sang. Quand Nathalie Ménigon, l'autre tête pensante d'Action Directe, c'est une ancienne employée de banque engagée dans le syndicalisme et adepte du sabotage d'ordinateurs, pratique qu'Action Directe reprendra à son compte par la suite. Face à l'inutilité de l'action institutionnalisée, elle fait le choix de l'illégalité, puis de la violence révolutionnaire.
Moi j'ai 24 ans, je suis issu d'une famille ouvrière, j'étais employée de banque. En 1976, il y a eu une grève très dure. On a été mis à la porte de la CFDT parce qu'on voulait gérer nous-mêmes notre lutte et qu'on était pour des actions plus radicales. À partir de ce moment-là, on a créé un collectif autonome et dont le principal moyen d'action était le sabotage. On sabotage l'ordinateur, destruction du travail fait par les jaunes. À ce moment-là, moi, je me suis posé le problème de l'illégalisme et dans une stratégie de lutte armée. Et je me suis intégré au mouvement autonome. Et j'ai décidé de passer à une forme de lutte beaucoup plus offensive et radicale. Et je me suis retrouvé dans le projet d'Action Directe avec des camarades qui travaillaient sur des usines, sur des lieux de lutte, qui étaient d'accord avec moi sur un projet plus offensif. C'est-à-dire, c'est une rupture avec toutes les luttes institutionnalisées, la violence armée, donc la violence révolutionnaire.
Donc l'illégalité.
L'illégalité.
Malgré les coups de filet réguliers de la police, Rouillant, Ménigon et les quelques sympathisants qui traînent dans leur sillage commettent une dizaine d'attentats toujours symboliques. Le ministère du Travail, le ministère de la Coopération, un immeuble sonne à Cotra et une agence immobilière subissent mitraillage et attentats à l'explosif sans qu'il n'y ait de victimes. Action Directe y veille strictement. Aucun innocent ne doit se trouver dans les parages de l'attentat. Nous sommes en 1980. Les RG, qui craignent que le processus révolutionnaire le s'emballe, mettent tout en œuvre pour défaire l'organisation. Les planques du groupe sont sur écoute, les réunions infiltrées par les informateurs, les filatures sont constantes. Le 13 septembre, Rouillant et Ménigon finissent par tomber, piégés par l'appât du gain. Alors qu'ils pensent signer un contrat d'1 million de francs avec Carlos, le terroriste star, ils sont arrêtés. La police s'imagine alors avoir décapité Action Directe. Jean-Marc Rouillon et Nathalie Méligon, ainsi qu'une cinquantaine de militants, sont emprisonnés. Mais 10 mois plus tard, à peine élu, François Mitterrand amnistie une partie des prisonniers politiques français. Le pouvoir espère ainsi que le pari de la générosité et de la confiance paiera. C'est du donnant-donnant. La gauche assume de se faire taxer de laxisme et de complaisance envers l'extrême-gauche révolutionnaire, et Action Directe accepte d'abandonner sa lutte armée. Dans le documentaire que Jean-Charles Deniau consacre à l'organisation, Jean Alphen, un ancien militant de la gauche prolétarienne, puis d'Action Directe, se souvient de la stratégie d'ouverture adoptée par l'organisation.
On avait pignon sur rue à l'époque, après l'amnistie de 1981. Il y avait un souci d'ouverture. On a été présent dans le mouvement des squats, on a été présent sur le terrain des radios libres. C'était un effort d'ouverture. C'est vrai que... On voulait expliquer, il y a eu l'apparition de brochures aussi qui ont même été vendues à la FNAC. Je veux dire qu'on a cherché à expliquer notre projet à ce moment-là. Et on a vu la répression très forte contre ces ouvertures.
Alors, sortis de prison, les leaders d'Action Directe, Jean-Marc Rouillon et Nathalie Ménigon, semblent donc reprendre la voie de la légalité et de la modération. Mais les relations entre le pouvoir socialiste et Action Directe se détériorent rapidement. Car ces 10 mois passés en prison n'ont pas eu raison des convictions de Rouillon et de Ménigon. Ils sont contre le pouvoir, qu'il soit de droite ou de gauche. Dans une interview rare sur France Inter, Jean-Marc Rouillon explique le choix de la lutte armée et il s'adonne à un véritable chantage à l'attentat.
Pour le moment, vous êtes en veilleuse.
Non, nous faisons une action différente de recherche d'infrastructures et d'élargissement politique. Mais il est vrai que nous avons renoncé pour le moment à une action spectaculaire, violente. Mais si... La situation ne change pas si dans les prisons les QHS se maintiennent, si quotidiennement les prisonniers sont soumis à des vexations, à une situation humiliante, si le gouvernement ne change pas de politique dans l'usine, s'ils ne mettent pas les patrons au pas, il est évident que nous reprendrons une action violente.
Vous pensez que le Parti Socialiste, la gauche au pouvoir, mettra les patrons au pas ?
Nous, on voudrait un peu plus, qu'on les mette carrément à la porte.
Sinon ?
Oui, alors sinon quoi, Jérôme Benedi, vous avez eu la réponse ?
Sinon, non, je ne sais pas. J'ai le droit, au moment de l'enregistrement, uniquement à une plaisanterie. Sinon, on s'en débarrassera, on les éliminera. Mais c'était uniquement une plaisanterie, et c'était dans un éclat de rire.
Oui, enfin, tout de même, une plaisanterie. D'ailleurs, je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prendre, finalement, Action Directe au sérieux, même quand elle va au bout de son fusil ? En un mot, est-ce que c'est une organisation responsable ?
La plaisanterie macabre de Jean-Marc Rouillon prendra bientôt tout son sens. D'autant plus que les attentats reprennent vite, notamment contre les enseignes de luxe comme Fauchon, Boffinger, Rolls-Royce ou Burberry's, incarnation du capitalisme. Action Directe s'est réarmée et retourne à la clandestinité. Mais le mouvement s'essouffle, affaibli par l'arrestation de plusieurs militants, dont la jeune Joëlle Aubron, une nouvelle recrue, étudiante et bourgeoise rebelle que Ménigon et Rouillon ont rencontrée dans un squat du 20e arrondissement. L'organisation est en sous-effectif et les attentats ne provoquent pas l'insurrection prolétaire dont rêvent les leaders d'Action Directe. Coupés de la réalité, ils font face à une contradiction. S'ils combattent au nom des masses populaires, les ouvriers ne soutiennent pas véritablement leurs actions. Alors, il y a deux solutions. Ralentir ou au contraire accélérer le mouvement pour tenter de convaincre. Jean-Marc Rouillon et Nathalie Ménigon font le choix délibéré de la fuite en avant. Flashing time down the street.
take you in. They wait for you in their shadow. New York City is everything. Sing the ghost dance healer. Dreams, they pull you in to the crazy city's cool light, and the silhouettes that fall from dreams, they are laughing forever. Smoking ghosts find their way in inside your funny heart, girl. Flashing time down the street, they wait for you in their shadow.
Jean-Marc Rouillan, 30 ans dans quelques jours, est un militant de longue date. Ce matin, dans une interview à Libération, il revendique la paternité de 3 attentats antisionistes, dont le mitraillage de la voiture vide d'un fonctionnaire israélien. Idem pour l'attentat contre la Discount Bank du groupe Rothschild. Pour lui, c'est une riposte tout à fait normale à la situation au Liban. C'est un acte de solidarité internationale. Et il ajoute expressément qu'Action Directe revendique la paternité de cet attentat, tout comme celui de la rue Saint-Maur, qui ne fera pas de blessés non plus, mais causera des dégâts importants aux locaux de la société Nelor, tenue par des Israélites. C'est pour cela que la brigade criminelle a lancé un mandat de recherche contre Jean-Marc Rouillan, sans toutefois l'inculper sur ses seules déclarations, c'est-à-dire sans preuve ni éléments matériels. Ceci d'autant plus que le mouvement Action Directe semble rongé par les dissidences ces derniers temps.
À l'hiver 1982, des débats internes mettent Action Directe dans tous ses états. Tandis qu'une partie des révolutionnaires abandonne la lutte armée, les cibles des adeptes de la violence évoluent. Rouillan, qui déplace le combat de l'anticapitalisme vers l'anti-impérialisme, s'engage contre l'intervention israélienne au Liban et pour un État palestinien. Il perd des soutiens précieux, notamment à Lyon. Le groupe, réduit à son minimum, est très isolé au sein de l'extrême-gauche française. L'organisation repose alors sur 4 personnes, Jean-Marc Rouillan, Nathalie Ménigon, la jeune Joëlle Aubron, qui sort bientôt de prison, et Georges Cipriani. Lui est un ancien ouvrier de chez Renault qui a intégré les mouvements d'extrême-gauche en Allemagne où il s'est créé un réseau d'échelle européenne. Homme d'action, plus que penseur, car au sein d'Action Directe, le rôle d'idéologue revient à Rouillan et à lui seul, Cipriani s'occupe de la logistique. Il fait les repérages, trouve les armes, obtient le faux papier. C'est lui qui gère la vie en clandestinité. Car les 4 leaders de l'organisation disparaissent dans la nature. Personne ne sait où ils sont. À l'époque, les révolutionnaires européens font partie d'une nébuleuse plus vaste en lien avec des grosses armées dans des pays comme l'Iran, la Libye, la Russie. Dans ces régions, révolutionnaires, diplomates, hommes politiques et mafieux entretiennent des relations secrètes, mais étroites. À partir de 1984, Action Directe consolide ses appuis à l'étranger. Par le biais de Cipriani, les Français entrent en contact avec les Belges du CCC, les cellules communistes combattantes. Mais surtout avec la fraction armée rouge allemande, la tristement célèbre Banda Bader, qui théorise la nécessité d'un front anti-impérialiste européen. C'est l'époque de l'euroterrorisme.
C'est le 15 janvier dernier, dans ce document, que les deux groupes annoncent leur rapprochement. L'euroterrorisme est né. Objectif fixé, le développement de la guérilla en Europe occidentale. Guérilla dirigée contre l'impérialisme et son support logistique de pointe, l'OTAN. En travaillant ensemble, ces groupes peuvent donc établir un véritable planning pour leurs actions à venir et surtout s'entraider en échangeant des renseignements ou du matériel, par exemple. Pour les services de renseignement ouest-allemands, ces attentats poursuivent et relancent la guérilla promise par les groupes terroristes. Rien qu'en Allemagne, on compte 500 membres ou sympathisants de la fraction armée rouge, dont 200 seraient prêts à opérer dans la clandestinité.
Les attentats conjoints d'Action Directe et de l'ARF, menés contre des installations de l'armée américaine et de l'OTAN, représentent un changement d'échelle pour les Français. Car c'est la première fois dans leur carrière de terroriste que l'explosif tue. Aux côtés des Allemands, Action Directe fait l'apprentissage de la violence, la vraie. Le 23 août 1984, Nathalie Ménigon semble prise de remords. Elle appelle la police pour la prévenir. Une voiture bourrée d'explosifs est garée devant un bâtiment de l'Union de l'Europe occidentale. Attention, des innocents sont menacés. L'attentat est désamorcé, mais le repentir de Ménigon sera de courte durée. Action directe et l'ARF allemande annoncent leur fusion officielle via un communiqué envoyé à l'AFP en 1985. Leur pacte est signé dans le sang. Le 25 janvier, le général Audran, responsable des ventes d'armes françaises à l'Iran, est assassiné. Le 1er février, c'est Ernst Zimmermann, un grand patron du secteur militaire, qui est abattu en Allemagne. Ainsi, le processus qui doit mener à la mort de Georges Besse est enclenché. Le terrorisme vandale s'est mué en assassinat ciblé. Le 17 novembre 1985, Action Directe tente sans succès de tuer Henri Blandin, contrôleur général des armées. Ratage à nouveau sur Guy Brana, vice-président du Conseil national du patronat français, l'ancêtre du MEDEF, c'était le 15 avril 1986. C'est à ce moment précis que la bande des quatre d'Action Directe, Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon, Joël Aubron et Georges Cipriani, devient l'ennemi public numéro un. En France, la tension est à son comble, d'autant que les fronts terroristes sont multiples, comme en témoigne sauvagement la vague d'attentats de la rue de Rennes, commanditée par le Hezbollah en 1986. Pendant ce temps, les quatre d'Action Directe, recherchés par toutes les polices en cavale depuis 4 ans, sont introuvables. Ce 17 novembre 1986, à 20h, Rouillant, Ménigon, Aubron, Cipriani vont ressurgir dans le 14e arrondissement de Paris. Une apparition furtive mais fatale. Georges Besse, PDG de Renault, traverse la rue Edgar Quinet pour rentrer chez lui. Derrière les fenêtres allumées de son appartement cossu, sa femme et ses enfants l'attendent. Soudain, un bruit sec éclate dans la nuit, suivi d'un deuxième, puis d'un troisième coup. Georges Besse, 59 ans, s'écroule au pied de son immeuble. Sous le choc, un témoin raconte immédiatement après le drame.
Bon, j'ai entendu 4 coups de feu. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, je suis ressorti parce que j'ai cru d'abord que c'était un pétard ou des trucs comme ça, mais j'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui s'enfuyaient. Bon, j'ai vu une personne avec une veste bleue qui s'enfuyait du côté à droite, vers le cimetière. Et cette personne, il y en a deux autres personnes qui étaient parties. Alors je crois qu'il y avait un homme et une femme, ma mère qui l'a vu. Elle dit que c'était un homme et une femme.
Les témoins parlent de 2 femmes et d'un homme en moto. Jacques Chirac, le Premier ministre, est arrivé sur les lieux très rapidement en compagnie de Robert Pendreau, le ministre chargé de la sécurité publique. Ils sont allés saluer la famille de Monsieur Besse.
Si les plus hauts représentants de l'État sont présents au milieu de la police et des journalistes, c'est parce que le drame familial se double d'un message politique et d'une atteinte violente à l'État français. Car Georges Besse est un homme public. Il dirige l'une des plus grandes entreprises nationales, Renault. C'est Escalité, d'ailleurs, que sa mémoire est honorée lors de ses funérailles dans la cour des Invalides. Le gouvernement et la France, dans son ensemble, sont choqués. Alors qui et pourquoi a-t-on tué Georges Besse ? Qui ? La réponse arrive vite. Dans un tract découvert au métro Raspail, Action Directe rappelle les missions qu'elle s'est données. Comme d'habitude, la rhétorique est confuse, les formulations pesantes. Frappée au cœur même de la contradiction la plus forte au sein du consensus général de pacification et d'exploitation, écrit l'organisation, comprenne qui pourra. Le nom de Georges Besse n'est pas cité, mais le message est clair, d'autant plus que le texte est signé commando Pierre Auvernet, du nom de l'ouvrier de Renault tué par un vigile 15 ans auparavant. Pour Action Directe, tuer un patron revient frapper l'élite du capitalisme pour défendre le prolétariat et pousser celui-ci à l'insurrection. Issu d'un milieu populaire, fils d'un ouvrier des PTT, pur produit de l'école républicaine, Besse n'est pourtant pas le pire des patrons. À son arrivée en 1985, il a même évité un plan social massif qui aurait abouti à des milliers de licenciements. Loin d'inspirer l'esprit révolutionnaire des prolétaires, cet assassinat est incompréhensible pour les ouvriers eux-mêmes. Et puis, la société n'est plus celle de 1970. Alors, une minute de silence en l'honneur du patron assassiné et respecté, oui, dans toutes les usines. Oui, pourquoi tuer Georges Besse, fils d'ouvrier respecté par ses employés, si les masses ne sont pas prêtes à s'emparer de cette action afin de mener une guérilla contre l'ordre établi, histoire de reprendre la logorée révolutionnaire ? Pour tenter d'obtenir une réponse à ces questions, il faudrait mettre la main sur les tueurs. Or, Rouillant, Méligon, Aubron et Cipriani se sont volatilisés. Trois jours après l'assassinat de Georges Besse, les portraits de Nathalie Méligon et Joël Aubron sont placardés dans toute la France. Pour toute information utile concernant les tueuses, comme les appelle la presse, Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, offre 1 million de francs. À ceux dont la méthode rappelle celle du régime de Vichy, il réplique qu'en ces temps d'urgence, il n'agit pas dans le domaine de la décence, mais de l'efficacité. Malgré cette mesure d'exception, l'enquête s'enlise. Les policiers ne trouvent rien, rien de rien, si ce n'est un document de 26 pages dactylographié envoyé par Action Directe à l'AFP pour revendiquer l'attentat, une provocation. En février 87, trois mois après la mort de Georges Besse, l'information tant attendue arrive enfin. Un indique de la direction de la surveillance du territoire repère un couple étrange dans une vieille ferme du Loiret à Vitry-aux-Loges. Les policiers opèrent alors le plus discrètement possible. Aucune enquête de voisinage n'est menée. C'est la meilleure façon de ne pas éveiller les soupçons. Une fois Méligon et Rouillant identifiés, Paris donne le feu vert. Et le 21 février 1987, les quatre leaders d'Action Directe sont arrêtés alors qu'ils sont en train de dîner. Dans leur repère, la police saisit un véritable arsenal, de l'explosif, des détonateurs, mais aussi des documents sans équivoque. Une liste de personnes exécutées, les comptes rendus de surveillance de l'immeuble de Besse notamment. Enfin, la police découvre un petit réduit destiné à servir de prison à de futurs otages. La ferme, louée par Cipriani sous un faux nom, était censée accueillir une équipe de chercheurs belges. Jean-Marc Rouillant et Nathalie Méligon sont connus au village sous le nom de Robert et Nadine. Et comme souvent, les riverains sont stupéfaits d'apprendre que leurs gentils voisins étaient les criminels les plus recherchés de France.
La personne que vous voyiez le plus souvent, c'était une dame.
C'était Nadine, qui venait ici trois fois par semaine, presque trois fois par semaine, au ravitaillement, venait chercher du lait. Même des fois, elle venait pour rien faire, elle venait nous voir, nous dire bonjour. Et puis, des fois, elle venait garder la grand-mère qui a 88 ans, la surveiller le temps qu'on faisait le travail.
Elle était sympathique.
Ah, vraiment gentille, vraiment.
C'est ses gants, Nadine. C'est ses gants, Nadine, qu'elle est venue, qui faisait si froid et qu'elle a oublié de les remporter.
Et alors, elle a beau de bête aussi, elle a beau
de bête. Elle a deux petites chèvres qu'elle m'a pris en pension pour s'amuser. Puis elle m'a dit, si un jour j'aurai un accident ou que je serai obligée de partir ou quelque chose, je vais te laisser le papier et tu reprendras tes petites chèvres.
Et vous, vous aviez quel contact avec Nadine?
Oh, ben gentil, on causait d'animaux, de canards, oui, de poulets. Il n'y avait que les animaux. Pour elle, il n'y avait que les animaux qui comptaient.
Alors dites, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez
appris? Eh ben, c'est terrible. Moi, je vous assure que je ne peux pas le croire. Je vous le dis franchement, je ne peux pas le croire. Ça aurait été d'autres qu'elle, j'aurais dit oui. Mais Nadine, je dis, c'est pas possible que Nadine ait fait ça. C'est pas possible.
Le 14 janvier 1989, deux ans après cette capture, le procès d'Action Directe, tant attendu par la famille et les médias, a lieu. Les questions que tout le monde se pose vont enfin trouver une réponse. Comment et surtout pourquoi? Pourquoi tuer? Et pourquoi Georges Besse? Les débats, on le pense alors, vont porter sur les circonstances du meurtre et sur le degré de responsabilité des coupables présumés. Car des zones obscures persistent, notamment pour ce qui concerne le rôle de Jean-Marc Rouillant et de Georges Cipriani. Mais le procès ne se déroule pas comme prévu. Alors que les accusés sont appelés à s'exprimer, Joël Aubron se lève. Pendant une heure et demie, elle lit d'une voix monotone et monocorde le texte d'Action Directe, celui qu'il a préparé pour sa défense. L'audience ne comprend rien, ou pas grand-chose, à cette déclaration interminable qui relève davantage de la propagande que du plaidoyer. À l'issue d'un réquisitoire anti-impérialiste éprouvant pour l'auditoire, tant la pensée d'Action Directe semble absconse et incohérente, Joël Aubron, Jean-Marc Rouillant, Nathalie Méligon et Georges Cipriani quittent leur propre procès. Les cinq jours suivants, ils n'assistent plus aux audiences, refusant de répondre aux questions de la justice, car leur position est claire. Ils revendiquent leurs actes collectivement au nom d'Action Directe et de ses combats. Ils acceptent la condamnation, mais demandent une peine commune. Le dernier jour du procès, leur avocat Bernard Ripper tente en vain de retourner la situation.
La défense aura attendu le dernier moment pour tenter de faire basculer ce procès. Tentative sans espoir de la bouche même de Maître Ripper qui considérait que tout était joué à l'avance. La responsabilité collective n'existe pas, lancera Bernard Ripper au magistrat. C'est à vous de prouver la responsabilité de chacun des accusés. Sous-entendu, bien sûr. Des témoins ont aperçu, ont vu Nathalie Méligon et Joël Aubron sur les lieux de l'assassinat. Mais les garçons, Rouillant et Cipriani, étaient-ils présents, eux? On tente de les faire passer tous les quatre pour des dégénérés, dira Christian Etlin, mais ce sont avant tout des dissidents politiques qui ont choisi l'action violente. Une action violente que les sept magistrats de la Cour d'assises spéciale ont sanctionnée après un peu plus d'une heure de délibéré par la même peine, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 18 ans.
Pourquoi Georges Besse est-il mort, lui plutôt qu'un autre? Pourquoi avoir radicalisé l'utilisation de la violence? Pourquoi tuer un homme après avoir privilégié l'action symbolique? Eh bien, action directe n'en aura rien dit. Alors, les renseignements généraux et certains journalistes qui ont enquêté sur la question émettent depuis une hypothèse surprenante, mais étayée par bien des témoignages. Si Georges Besse est mort, ce n'est pas au nom des prolétaires que le système capitaliste exploite et licencie et que le grand patron incarnait. Non, il a été assassiné parce qu'Action Directe était manipulée par l'Iran. Comment donc? Un groupe d'inspiration libertaire, marxiste-léniniste, aurait suivi les mollahs iraniens en tuant le PDG d'une entreprise française? En réalité, la chose est plausible. Car depuis l'arrivée de l'ayatollah Khomeini au pouvoir, l'Iran mène une guerre secrète contre la France via des groupes armés. L'attentat de la rue de Rennes en 1986 visait ainsi à stopper le soutien français à l'Irak dans le conflit qui l'oppose à l'Iran. Yves Bonnet, directeur de la DST à l'époque, résume ainsi la situation dans le documentaire de Romain Icard en 2009. Je le cite. L'Iran avait trois sujets de conflit avec la France. Le contentieux nucléaire, l'assistance apportée par Paris à l'ennemi irakien, l'assistance ou l'accueil de la France à l'opposition à la résistance iranienne. Évidemment, quand vous regardez la personnalité de Général Audran et de Georges Besse, ils sont au cœur de ce conflit. Ce sont des cibles d'Action Directe parce que je suis complètement convaincu que le groupe a été télécommandé par le VEVAC à l'époque, c'est-à-dire les services iraniens pour accomplir ces assassinats. C'est tellement plus commode. Les différents nucléaires dont parle Yves Bonnet, la conséquence d'un accord de coopération signé dans les années 70 entre le Shah d'Iran et une société française d'enrichissement d'uranium, Eurodif, dirigée par un certain Georges Besse. Ce n'est donc peut-être pas le patron de Renault, ni l'incarnation du capitalisme d'État qu'Action Directe visait, mais l'homme fort du nucléaire français au nom des intérêts iraniens. Les membres d'Action Directe, contre un soutien logistique et financier, auraient donc joué les sous-traitants, voire les mercenaires, pour faciliter leur propre lutte. Une thèse surprenante, mais encore une fois, plausible. Pourquoi tuer Georges Besse? Parce qu'Action Directe s'est radicalisée auprès de ses homologues européens, et notamment allemands. Ça, c'est un fait. Pour répondre à une commande venue de l'étranger, c'est une hypothèse. Ou pour donner sens et efficacité à un mode opératoire, l'action directe. Et pour tenter d'accélérer les effets de la lutte armée et provoquer enfin la révolte spontanée du prolétariat, sans doute. 31 ans après l'assassinat de Georges Besse, les membres d'Action Directe n'ont toujours pas parlé, ni pour se repentir, ni pour s'expliquer. En revanche, la prison n'a pas adouci leur velléité révolutionnaire. Depuis leur cellule, ils n'ont eu de cesse de dénoncer la violence du système pénitentiaire, leurs conditions d'incarcération et en particulier l'isolement extrême dont ils ont été l'objet. En 2005, alors que leur peine de sûreté touche à sa fin, 2000 personnes signent une pétition pour demander leur libération. Parmi elles, Noël Mamère, Cécile Duflot, Olivier Besancenot, Michel Onfray, Lucie Aubrac ou Jacques Tardy demandent qu'une page de l'histoire soit tournée et appellent à une réflexion sur le principe de la perpétuité. Si la justice sanctionne les criminels, ce n'est pas pour les punir, mais pour leur permettre de revenir un jour dans la société. À partir de 2006, Aubron, Ménigon, Cipriani et Rouillant, enfants perdus d'une révolution non aboutie, obtiennent tous la liberté conditionnelle. Enfin, au chapitre « Que sont-ils devenus ?», Joël Aubron a succombé à un cancer le 1er mars 2006. Nathalie Ménigon et Georges Cipriani sont en liberté conditionnelle. Quant à Jean-Marc Rouillant, eh bien lui, il a été condamné à 18 mois de prison le 16 mai dernier pour apologie du terrorisme après avoir déclaré que les auteurs des attentats de Paris s'étaient battus courageusement.
Strong, we were wanted all along. never thought that I could be a fainting. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth, the trees had burned down to the ground.
Don't give up, you still have.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Bonjour Alain Gesmar.
Bonjour Fabrice Drouel.
Alors, vous avez été bien sûr l'un des leaders de mai 68, vous avez été l'un des dirigeants de la gauche prolétarienne avec Benny Lévy, avant de vous en éloigner lorsque certains militants se sont radicalisés. Manifestement, vous n'étiez plus sur cette longueur d'onde de la radicalité. Par la suite, vous avez été inspecteur général de l'éducation nationale, puis membre du cabinet de Lionel Jospin, alors ministre de l'éducation et conseiller du maire de Paris, Bertrand Delanoë. C'est bien ça ?
Exact.
Bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà quel a été votre engagement politique révolutionnaire à la fin des années 60, au début des années 70, donc en 68? Qu'est-ce qui vous faisait courir? Qu'est-ce qui vous portait? Quel idéal vous portez? Il y avait la jeunesse déjà. La jeunesse, c'est important hein, dans l'implication dans un mouvement comme ça. Mais il y a surtout les vraies motivations politiques.
L'époque était à la fois passionnante et parcourue par des crises assez importantes. Au-delà des Trente Glorieuses, il y avait une crise sociale importante. Le SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti à l'époque, était extrêmement bas, de l'ordre de 300 francs, hein, si mes souvenirs sont bons, par mois. Il y avait des mouvements sociaux de plus en plus importants qui se déroulaient parce que ça se conjuguait avec le fait que c'était l'époque des OS, des ouvriers spécialisés, qui étaient encadrés dans les grandes usines de l'automobile en particulier par des contremaîtres qui étaient plus des petits chefs que des compétences qui les aidaient à faire leur travail. Donc il y avait à la fois des revendications financières, des revendications sur le rapport au travail à l'intérieur des entreprises, et ces entreprises embauchant beaucoup parce que ça, à l'époque l'industrie était florissante, il y avait une embauche de plus en plus importante, à la fois de jeunes issus des campagnes et deuxièmement de travailleurs immigrés pour compenser l'insuffisance de travailleurs français. Donc, il y avait une main-d'œuvre qui n'était pas accoutumée à la vie de l'usine et qui était facilement révoltée. Donc, si on regarde les années 66, 67, 68, on voit des grands mouvements avec des grèves, avec des affrontements avec les CRS, enfin, tout un mouvement ouvrier à l'époque. Et d'autre part, on a un système universitaire qui est en train de s'écrouler parce que c'est le système universitaire des années 1920-1930 qui se trouve en face des jeunes arrivants du baby boom d'une part et d'autre part d'un bouleversement complet des manières d'enseigner dans les universités les plus avancées du monde, les universités anglo-saxonnes, par exemple.
Alors, il y a une conjonction comme ça de plusieurs mouvements libératoires, on va dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose de révolutionnaire? Déjà, je pose la question, puisqu'on va arriver à Action Directe, qui est quand même le cœur de notre émission. Donc, il est intéressant de bien circonscrire le champ du mot révolutionnaire.
J'ajouterais une troisième dimension pour qu'on saisisse bien tout. Il y a eu Place de la Nation, un grand concert dans le milieu des années 60 qui refusait de se dissoudre dans la nuit, qui était rempli de jeunes. Et il y avait là aussi une aspiration à... il y avait la découverte d'une autre musique aussi et d'une aspiration à un autre mode, à d'autres modes culturels que les modes classiques. Donc c'est ce mélange-là qui fait que quelque chose va prendre en 68, qui va faire coaguler tout ça.
C'est à la fois social et, comme on dit aujourd'hui, sociétal. Il y a les
social,
deux.
Social et sociétal. Et en plus, on est au lendemain de la guerre d'Algérie. Il y a eu des générations entières de jeunes qui ont été envoyés, qu'ils veuillent ou non, en Algérie se battre.
À la guerre.
Guerre perdue. Ouais. Deuxième guerre coloniale perdue après l'Indochine. Tout ça crée une ambiance qui se conjugue mal avec l'autoritarisme du général de Gaulle et de son mode de gouvernement.
Est-ce qu'elle est, donc je reviens à ma question, est-ce qu'elle est révolutionnaire cette période? Est-ce que
moi,
vous la sentiez
moi,
comme ça?
Moi à l'époque
ça,
je la sens pas comme ça. Je ne l'ai senti qu'en marchant, on dirait aujourd'hui, sans faire de jeu de mots. Je me suis découvert cette vocation pendant le mouvement de 68, parce que l'idée que ça pouvait s'arrêter, ce qui était en train de se passer, qui me semblait absolument fantastique et qui dépassait l'univers dans lequel j'avais vécu. J'étais un militant de gauche. J'avais été pendant la guerre d'Algérie au PSU, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mais le fait de faire d'aller au-delà, c'est-à-dire de penser qu'on pouvait changer vraiment la société, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit parce qu'il me semblait que ce qui se passait en 68 était justement un changement de société.
Qu'est-ce qui vous amène alors à intégrer les rangs de la gauche prolétarienne? Parce que là, c'est autre chose. C'est une autre démarche. C'est quoi cette démarche-là? Par rapport à ce chamboule tout, on renverse la table en mai 68, dans une atmosphère quand même bon enfant. Moi, j'y étais pas, donc vous y étiez. Il y a quelque chose de bon enfant. Dans la gauche prolétarienne, il y a quelque chose peut-être de plus combattant, de plus âpre, de plus rude.
La fin de 68, c'est la reprise des usines Renault de Flins par les CRS. Un mort, Gilles Totin.
Oui.
La reprise des usines Peugeot à Sochaux par les mêmes CRS, ou peut-être par les gendarmes d'ailleurs. Deux ouvriers morts, Blanchet et Bello. Y a dans l'idée que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et que, d'une part, les ouvriers en grève vont pas forcément se laisser faire partout. Et nous, des gens dans mon genre, on a en tête les massacres de la Commune de Paris. Ouais. Ça s'est extrêmement mal terminé. Donc l'idée que face à une population qui occupe certes les usines, les facultés, enfin tout ce qu'on veut, les lycées, etc., mais qui est désarmée, on risque de se retrouver en face d'une violence militaire dont on ne sortira pas. Pas forcément nous individuellement, mais dont les acteurs ne se sortiront pas, et qu'il s'agit de se préparer à la suite qui ne peut être que violente.
Et là, comment vous vous sentez au début dans la gauche prolétarienne, que vous quittez justement parce que vous n'adhérez plus au concept, on va dire, d'action directe, voire violente. Je ne parle pas d'organisation terroriste dont on va parler, qui s'appelle action directe, mais le concept de l'action directe qui introduit la violence, forcément.
La gauche prolétarienne, c'est l'idée de l'expression directe des, entre autres, des ouvriers. On est très ouvriériste à l'époque. Faut quand même voir que cette mouvance-là se revendique de Marx, de la révolution russe, de Lénine, etc., etc. Donc l'idée, pour aller de l'avant, ça va se passer durement. Ça fait partie du corpus de pensée de ce type de mouvement. Et la deuxième chose, c'est que moi, je retrouve les gens du mouvement maoïste ou qui se définissaient comme tels, parce que ce sont ceux qui ont été le plus loin. Ce sont ceux qui ont été à la défense des ouvriers de Flins au moment où ils se battaient avec les CRS. C'est ceux qui ont poussé le plus loin l'alliance des jeunes étudiants et des ouvriers, et l'alliance y compris dans le refus de l'arrêt du travail et de la reprise des usines par la police. C'est ça la rencontre.
C'est ça la rencontre. À la fin, vous la voyez, la dérive violente, et vous partez, on est bien d'accord. Vous partez pour ça.
C'est pas je pars, enfin, c'est nous décidons,
vous,
nous
oui.
décidons collectivement
ce qu'est
la direction de ce mouvement à l'époque, nous décidons de nous auto-dissoudre. Parce qu'on va directement dans le mur. Qu'est-ce qui s'est passé? Janvier 72, l'assassinat de Pierre Auvernet devant Renault. Lippe, 73, c'est le contraire, c'est un mouvement ouvrier absolument fabuleux qui fait que des ouvriers peuvent prendre en main leur usine et se mettre à vendre leur propre production, et ils n'ont pas besoin de militants maoïstes pour faire ça.
Bien sûr.
Donc ça, c'est une découverte. Munich, 72,
les Jeux Olympiques.
C'est les Jeux Olympiques, c'est l'attaque par des terroristes de sportifs israéliens. C'est des choses aussi qui se passent au Japon, c'est des choses qui se passent en Italie avec les Brigades Rouges, et l'idée que tout ça ne mène qu'à des catastrophes est extrêmement prégnante pour nous, et y compris pour ceux qui parmi nous sont les éléments les plus préparés à justement à opérer cette préparation des masses, comme on disait à l'époque, à éventuellement affronter l'armée ou la police.
Alors, puisque vous parlez de Pierre Auvernet, on l'a évoqué dans le récit, parce que c'est emblématique, hein, je vous rappelle, cet ouvrier tué par un vigile de l'usine Renault en 1972, vous participez, vous êtes à l'enterrement de Pierre Auvernet, et vous vous y exprimez. On va écouter ce que vous avez dit.
De ne reculer devant aucun sacrifice, de surmonter toutes les difficultés pour remporter la victoire.
Alain Gesmar, qu'est-ce que vous voulez dire précisément là ?
Si vous aviez eu la phrase de fin de mon discours ce jour-là, vous auriez entendu que j'appelais à ce qu'il n'y ait pas de vengeance. Et à ce que la réponse soit une réponse politique. On en appelait aux ouvriers de Renault pour qu'ils se révoltent et qu'ils viennent rejoindre le combat qui était celui de Pierre Auvernet, et pas du tout à des opérations militaires.
Alors, on en arrive justement à Action Directe. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ben non, c'est pas possible, on a baissé les bras. Alors on les appelle, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette formule, les enfants perdus de mai 68. Est-ce qu'on peut les appeler comme ça? Parce que eux, ils sont dans une dérive. La preuve, hein, ça finit par des assassinats. Alors, il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas que celui de Georges Besse.
Bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que entre le premier assassinat perpétré par les actions directes et, par exemple, l'enterrement de Pierre Auvernet, il s'est passé plus de 6 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité directe, déjà physique. C'est pas comme ça que ça s'est passé. La gauche prolétarienne captait l'essentiel de ce qu'était une révolte ouvrière assez radicale et une révolte de jeunes, ouvriers ou pas ouvriers, étudiants, enfin tout ce qu'on peut imaginer, assez radicale, qui venait à la gauche prolétarienne. La gauche prolétarienne s'auto-dissout. Il y a un vide qui se crée. Dans ce vide, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que des petits groupes partent à la campagne, d'autres vont faire des ateliers, il y a des mouvements écolos qui se font à droite, à gauche, il y a toute une espèce d'une autre attitude qui se crée, des rassemblements immenses de gens qui ont des actions locales extrêmement importantes. Et là-dedans, il y a, parmi ces gens, il y a aussi une mouvance très militante, très engagée, qui, elle, n'accepte pas l'idée qu'on puisse ne plus avoir comme objectif l'action révolutionnaire directe, parce que cela n'était pas dans la culture de la CGT et des normes classiques de ce qui était l'expression de la classe ouvrière, le PC et la CGT.
Alors, il y a aussi ce concept d'euro-terrorisme. Il y a les Brigades Rouges d'un côté, il y a les fractions armées rouges en Allemagne, la fameuse bande Abadère. Action Directe voudrait être, si je puis dire, la filiale française de ce qu'on a appelé, à juste titre, me semble-t-il, l'euro-terrorisme.
En tout cas, ils ont clairement, enfin d'après ce qu'ils disent eux-mêmes, enfin si on lit un peu leur texte, j'ai pas passé ma vie à faire ça, mais enfin bon, ils ont passé des accords avec la fraction armée rouge extrêmement importante. Quand ils se sont fait arrêter, c'est parce qu'ils croyaient passer un accord avec Carlos.
Ouais.
Puis en fait, ils ont trouvé les policiers au rendez-vous. Donc, ils recherchaient cette forme d'alliance internationale. D'autant que pour faire survivre un groupe terroriste secret et clandestin, il faut des moyens. il faut vivre dans un milieu qui est extrêmement dur et difficile, et que si on est seul et isolé, je ne sais pas comment on s'en sort.
Est-ce que vous les avez croisés? Est-ce que ça vous est arrivé sur votre route? Et avant, peut-être, toutes leurs exactions, est-ce que vous les avez croisés, ces gens-là?
Je pense que j'ai dû croiser chez eux le groupe de Lyon.
Max Frérot, notamment.
Max Frérot, André Olivier.
André Olivier, pardon. Max Frérot était l'artificier du groupe, mais qui a été arrêté à Lyon en décembre 87.
Mais je pense que André Olivier était de ceux qui avaient rejoint le Secours Rouge et a fait partie, il l'avait rejoint tard, et il a fait partie de ces gens qui ont été affreusement déçus que la gauche prolétarienne se dissolve. Ça a constitué un petit groupe, mais c'était vraiment, je pense, c'était peu important, et numériquement, et dans l'espace politique, ça a été peu important.
Alors, en 2007, vous êtes engagé auprès de 150 autres personnalités pour la libération des membres d'Action Directe enfermés depuis 20 ans. On sait qu'ils ont été sévèrement traités quand même. L'isolement, c'était très très dur. Cipriani a perdu la raison, je crois, plus ou moins.
Enfin, il n'est pas tout seul, et ça s'est très mal passé. Si j'ai pris position, j'ai écrit un article dans Le Monde, donc je l'ai signé,
Bien sûr.
C'était très exactement pour dire que, à partir du moment où ils avaient été condamnés à une peine d'une durée X très lourde, déjà 20 ans la plupart, il n'y avait aucune raison qu'ils soient traités différemment de n'importe quel assassin, meurtrier, condamné, et qu'ils avaient droit, comme tout le monde, à bénéficier des libérations conditionnelles. Il n'y avait pas de motif au moment où tout ça se passait pour essayer de
pas de justice d'exception, en fait.
Pas de justice d'exception et pas de construction pour eux d'un enfermement à vie. Au moment où Badinter avait fait abroger la peine de mort, il avait refusé qu'il y ait une peine de condamnation perpétuelle. Ouais. Et le Parlement avait adopté ça. Donc il n'y avait aucune raison de ne pas les traiter comme tout le monde.
Aucune raison de leur infliger ce qu'on appelle un système de rétention.
Un système absolument de maintien exceptionnel en détention.
Dernière question, que reste-t-il de ces mouvements-là, par exemple, quand il y a des manifestations en France, et qu'il y a de la casse, on dit des militants d'extrême-gauche qui arrivent masqués, gaz lacrymogène, cocktail Molotov, est-ce que ce sont les derniers avatars, si je puis dire, de ce qu'ont pu être Action Directe et d'autres mouvements?
Je ne sais pas si ce sont les derniers avatars. Moi, l'image qui me vient quand je vois ces manifestations actuelles, c'est la manifestation des métallos, et où il y a eu une tentative à peu près réussie d'embarquer une manifestation ouvrière au départ dans des affrontements avec la police. C'est-à-dire que comme les anards de l'époque, ou les autonomes, on les appelait à l'époque, avaient réussi à s'en prendre à la police qui avait riposté, et la police avait riposté en tapant, y compris sur la manifestation elle-même. Donc du coup, il y avait eu une réussite. Et je pense que c'est un peu un modèle cardinal pour un certain nombre de gens qui, quand il y a des grands mouvements sociaux, espèrent toujours arriver à faire basculer l'ensemble dans une voie qui n'est pas forcément celle des gens qui sont venus à la manif.
Merci Anna Gesmar. Merci pour vos éclairages et vos souvenirs. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat de Georges Besse, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le conflit social chez l'IP.